Le journal vous est présenté par Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Des militaires ont pris le pouvoir au Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a démissionné cette nuit, vous l'entendrez. Les militaires disent vouloir organiser des élections dans un délai raisonnable.
La Biélorussie sera au cœur d'un sommet européen extraordinaire aujourd'hui. Le dirigeant de ce pays est lui aussi de plus en plus contesté par la rue.
L'épidémie de Covid-19 montre des signes de reprise et les jeunes semblent de plus en plus touchés, de plus en plus ciblés aussi par les messages de prévention après des vacances pendant lesquelles les gestes barrières ont parfois été oubliés.
À l'approche de la rentrée scolaire, le flou règne encore dans certains établissements. Les conditions de retour des élèves seront décidées au cas par cas.
Le président malien a été renversé par des militaires. Ibrahim Boubacar Keïta a été arrêté hier par des soldats pendant une mutinerie. Le dirigeant était très critiqué depuis le mois de juin. Des manifestants réclamaient le départ de celui qui est devenu le symbole de l'impuissance de l'État dans un pays déchiré par les attaques djihadistes et les violences communautaires. Celui qu'on surnomme Ibeka a donc démissionné sous la contrainte cette nuit. Il l'a annoncé à la télévision nationale. Écoutez.
Si aujourd'hui, il a plu à certains éléments de nos forces armées de conclure que cela devait se terminer par leur intervention, ai-je réellement le choix m'y soumettre ? Car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires. Pourquoi ? Je voudrais, à ce moment précis, vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment. Et avec toutes les conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement.
Ibrahim Boubacar Keïta qui vient de démissionner. Comment réagissent les habitants à Bamako? Que peut-il se passer maintenant dans le pays? Les militaires, désormais au pouvoir, affirment que tous les accords internationaux seront respectés. Ils appellent à une transition politique civile. Nous y reviendrons lors de la revue de presse internationale à 7h33 et avec un dossier consacré au Mali dans le journal de 8h. Les 27 pays membres de l'Union européenne doivent se réunir aujourd'hui en visite conférence pour évoquer la crise, cette fois en Biélorussie. La situation reste tendue avec de nombreux rassemblements. Hier encore, au 9e jour du mouvement qui dénonce la réélection du président Alexandre Loukachenko, souvent qualifié de dernier dictateur d'Europe. D'énormes usines d'État se sont mises en grève, comme celle de production d'engrais de Soligorsk dans le sud du pays. Elle emploie 20 000 salariés, Antoine Balandra.
Depuis ce mardi, plus aucun minerai de potasse ne sort des mines de Soligorsk. L'entreprise Belaruskali, plus gros producteur d'engrais au monde, avec un cinquième de la production mondiale, est à l'arrêt suite à une grève des ouvriers. Andrei, par exemple, 46 ans, y travaille depuis toujours et malgré la peur, il participe au mouvement.
L'administration fait tout pour arrêter la grève. Il commence à faire peur à chaque personne, une par une. Chaque ouvrier qui fait grève doit signer un document. Tu peux faire grève, bien sûr, si tu signes, mais les gens ont déjà peur parce que si tu mets ta signature, on te prendra nulle part ailleurs. Il faut comprendre qu'en Biélorussie, toutes les entreprises sont d'État et le patron de chaque entreprise, c'est le président.
Il faut donc beaucoup de détermination pour faire grève. Alors pour les aider, les mineurs, comme beaucoup d'autres Biélorusses, demandent à l'Union européenne d'être très clair avec Loukachenko.
J'attends de l'Europe que personne ne serre jamais la main à ce dictateur sanguinaire. Parce que cela s'est déjà produit lors de précédentes élections. Et après, il lui avait quand même serré la main. Merkel, par exemple, a serré la main de Loukachenko, un président qui a les mains pleines de sang jusqu'au coude.
Certains Biélorusses demandent aussi à l'Europe, en plus des sanctions, une aide financière pour les grévistes ou les familles des victimes de la répression.
Antoine Balandra, merci du fond du cœur, a réagi Joe Biden, officiellement investi cette nuit par les démocrates pour la présidentielle américaine du 3 novembre prochain. L'ex-vice-président de Barack Obama acceptera sa nomination jeudi lors de la clôture de la convention du parti qui, et c'est inédit, se déroule virtuellement à cause de la pandémie. Le gouvernement britannique a plié sous les pressions des lycéens, étudiants et professeurs dénonçaient un algorithme utilisé en cette année scolaire particulière et perturbée pour calculer les notes des A-levels, l'équivalent du bac, une formule qui a accentué les inégalités. En début de semaine, il a finalement été décidé que les estimations des professeurs seraient prises en compte. À Londres, Maxence Peignier.
Je suis terriblement désolé. Ce sont les mots du ministre de l'Éducation britannique, Gavin Williamson, aux bacheliers de cette année. Coronavirus oblige, les examens n'ont pas pu se tenir. Le gouvernement avait donc eu recours à un algorithme pour calculer les notes des lycéens. Mais pour 40% d'entre elles, elles étaient plus basses que les prédictions des professeurs. Après un week-end de manifestation, le ministre est revenu sur sa décision. Mais pour certains, le mal est déjà fait. Rihanna Perwett devait intégrer une prestigieuse université londonienne.
On est tous très en colère et déçus. Je m'attendais à d'excellentes notes, mais elles étaient bien plus basses que prévues, donc j'ai dû me contenter de mon deuxième choix. J'ai l'impression que les étudiants les moins privilégiés sont les plus impactés. Car même si le gouvernement est revenu sur sa décision, on a déjà dû réserver nos logements et souscrire nos emprunts étudiants.
Pour les professeurs, le recours initial à un algorithme était incompréhensible. Kim Wells est proviseur adjoint et enseigne le français dans un lycée de Londres.
Il y a tant de variances, le type d'école, la taille d'école, les prédictions des profs. Pour un grand nombre, ils n'ont pas reçu les résultats qu'ils ont mérités et qui étaient différents de ce que les profs ont prédit. Ça a été une période d'incertitude et de stress pour mes élèves.
Le gouvernement va donc finalement baser les notes du bac sur les estimations des enseignants. Mais certains étudiants devront quand même repousser leur entrée à la fac d'un an si leur nouveau choix est déjà complet.
Dans les open space, les salles de réunion, les couloirs, les vestiaires, bref, tous les espaces clos et partagés au travail, le masque sera bientôt obligatoire. La ministre du Travail l'a annoncé hier après une visioconférence avec les partenaires sociaux. Le protocole sanitaire sera modifié. La mesure entrera en vigueur le 1er septembre en France.
Et à deux semaines de la rentrée scolaire, Margot Delpierre, des incertitudes planent encore sur le retour des élèves et des professeurs dans les classes.
Du côté du ministère de l'Éducation nationale, on temporise, mais certains syndicats sont plus inquiets, Damien Mestre.
Toute la difficulté du moment, c'est que la rentrée se prépare à partir d'un protocole qui date de la mi-juillet. Or, la situation sanitaire a évolué depuis et tout le monde s'attend à ce que dans certains endroits, les conditions de rentrée deviennent beaucoup plus strictes. Du côté du ministère, on l'assure, la règle, c'est que tant que les élèves ne sont pas scolarisés dans une zone cluster, eh bien, ils doivent pouvoir revenir à l'école. Mais dans quelles conditions? Faudra-t-il porter le masque partout? Les cantines pourront-elles ouvrir normalement? Les classes devront-elles être dédoublées? Bref, des interrogations et une seule certitude, tout sera décidé au cas par cas en fonction de chaque établissement et en tenant compte des dernières remontées sanitaires. Certains syndicats commencent pourtant à s'impatienter. Le SNUIPP, majoritaire chez les enseignants, demande un report d'une semaine de la rentrée. Du côté des parents d'élèves, la FCPE réclame des moyens extraordinaires pour recruter davantage et rendre les masques gratuitement accessibles. Les proviseurs et principaux se veulent, eux, plutôt rassurants. Selon le syndicat national des personnel de direction, la fin de l'année dernière a servi d'expérience et la continuité pédagogique pourra être assurée même au tout dernier moment.
Prochain rendez-vous au plus tard le 26 août pour la conférence de presse de rentrée du ministre Jean-Michel Blanquer. Le nombre de nouveaux cas positifs à la Covid-19 a progressé de 2238 en 24 heures en France. L'épidémie montre des signes de reprise, particulièrement chez les jeunes. Le nombre d'hospitalisations des moins de 40 ans augmente, en cause notamment les vacances, les fêtes, le non-respect des gestes barrières. Cette partie de la population risque moins de développer une forme grave de la maladie, mais peut tout à fait transmettre le virus aux personnes plus fragiles. Denis Malvy est infectiologue au CHU de Bordeaux.
Nous sommes sinon alarmés, du moins hautement préoccupés, et on voit que les choses pourraient déraper si nous nous approchons de la rentrée. Et au moment de la rentrée, toutes ces populations qui se sont abondamment brassées, qui auront rencontré peut-être le virus, qui peuvent être à l'origine malheureusement de transmission, vont se retrouver sur leur lieu de travail et puis vont recroiser les populations fragiles de leur famille. Enfin, je ne peux pas penser, alors il faut être d'un grand optimisme ou peut-être d'une certaine naïveté, que les populations plus jeunes qui sont en train d'être exposées actuellement, une fois qu'elles auront rejoint leur famille et retrouvé leurs aînés, vont se retrouver à distance de ces derniers. Il va y avoir forcément des rencontres, soit avec des personnes de leur âge fragile, soit avec des aînés. Et ça, il faut absolument l'éviter parce qu'au niveau individuel, ce serait extrêmement lourd. Et puis au niveau de la santé communautaire, nous nous retrouverions dans les situations du mois de février, mars et avril, où nos aînés se retrouveraient en première ligne d'être hospitalisés et de mobiliser un secteur de santé qui a besoin lui aussi de se ressourcer pour être efficace.
L'infectiologue Denis Malvy, propos recueillis par Margot Siffer. Faut-il blâmer la jeunesse à propos de la reprise de l'épidémie de Covid-19? C'est la question qui sera discutée ce soir dans le temps du débat d'été à partir de 18h15. En Bretagne et dans le nord de la France, attendez-vous à de la pluie. Aujourd'hui, les averses vont s'étendre au fil de la journée sur le quart nord-ouest du pays. Du soleil dans la moitié sud, comptez cet après-midi 25 degrés à Lille, 22 à Paris, 31 à Grenoble et 32 degrés à Bordeaux.